des femmes écrivains. Une chronique de Jean Mauduit sur Canal Académie.
Bonjour Jean Mauduit.
Bonjour Hélène.
Pour votre chronique sur les femmes écrivains, de quel ouvrage allez-vous nous parler ?
Eh bien, je reçois aujourd'hui Marie-Ange Bernard. C'est elle qui va nous parler de la table d'écriture de Jean Tordeur qu'elle a publiée et sur laquelle je suis curieux d'avoir des renseignements.
Alors, je vous laisse parler avec Madame Marie-Ange Bernard. Soyez la bienvenue.
Je vous remercie beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Cela me fait un très grand plaisir.
Marie-Ange, d'abord, parlez-nous de vous.
De moi ?
Qui êtes-vous ?
Ah, mon Dieu ! Je voudrais être de façon très générale, dire simplement amoureuse de la littérature française de Belgique. Alors comment l'ai-je pratiquée ? Je l'ai pratiquée en tant qu'enseignante de littérature pendant toute ma carrière, qui fut d'une trentaine d'années comme chacun sait. Puis j'ai fait de la déclamation, j'ai énormément lu, j'avais une mère journaliste. Tout ça m'a baignée dans la littérature très tôt, mi-française, mi-belge. J'ai été donc bien placée pour apprécier les deux.
Quelle différence entre la littérature française et la littérature belge ? Là, je suis étonnée.
Il n'y a pas de différence.
Ah,
il n'y a pas de
rassurez-moi.
Différence. Il y a une différence simplement géographique. Nous aimons parler, et j'aime particulièrement parler, de littérature française de Belgique. J'avais comme professeur à l'université de Louvain, Joseph Hans, qui était un ardent défenseur de la littérature française de Belgique. Nous avons certaines particularités qui sont dues tout simplement à notre, disons, terrain d'entre-deux, qui lie quand même une certaine culture flamande à la culture wallonne, un goût pour le fantastique. Enfin, vous connaissez toutes ces caractéristiques de la littérature de chez nous.
Personnellement, moi, Gelderode,
oui.
Simenon,
oui.
Appartiennent pour moi à mon patrimoine personnel.
Ah, mais
ça
oui.
Ne fait aucune différence. Je pourrais en citer d'autres, oui.
Je pense réellement que la littérature, de toute façon, nous appartient. Et c'est un des buts que j'ai toujours poursuivi avec mes élèves, que je poursuis en publiant à la demande de l'Académie cette table d'écriture, les discours de Jean Tordeur. C'est justement que les gens comprennent que la littérature est leur patrimoine, au même titre que le Louvre, au même titre que la cathédrale Sainte-Gudule à Bruxelles, que ça fait partie, effectivement, j'ai aimé le mot patrimoine que vous avez utilisé. Nous parlons français, nous utilisons la langue française, avec plus ou moins de bonheur, ici c'est avec énormément de bonheur dans ce livre-ci, mais je suis d'accord avec vous, nous avons la même littérature.
Bien sûr. Alors, quand et comment avez-vous rencontré d'abord Jean Tordeur ? Dans tous les sens du mot. Jean Tordeur physiquement et Jean Tordeur en tant qu'auteur.
En tant qu'auteur. C'est une vieille histoire parce qu'en fait, Jean Tordeur et Nicole Hélin, sa compagne, étaient de grands amis de mes parents. Ceci est indépendant, mais j'ai appris à connaître la littérature et les écrivains très tôt comme étant des gens, non pas comme les autres, mais des gens que l'on pouvait aborder. Des gens avec qui il était normal de discuter et qu'il était normal d'admirer. Donc, ça n'a pas été compliqué pour moi. Maintenant, comment les choses concrètement sont-elles venues ? Là, je vous parle de souvenirs d'adolescence. Il s'est trouvé que, dirigeant une association culturelle axée sur la langue et la littérature qui s'appelle l'association Charles Plisnier, j'ai voulu monter une exposition pour les 50 ans de cette association. Bien entendu, je me suis adressée à Nicole Hélin, qui s'occupe du musée de la parole, qui est devenu archive et musée de la littérature à Bruxelles, et qui a photographié tout ce qu'on peut rêver comme écrivain en Belgique et aussi comme photo de théâtre. J'ai donc, à ce moment-là, composé un catalogue, eu l'aval de Jacques de Decker, et nous avons fêté cela chez Jean Tordeur et Nicole. Nous nous connaissions déjà. Et au cours de cette conversation, étaient présents Jacques de Decker et son épouse, Philippe Robert Jones, que vous connaissez
Jacques
probablement.
Jacques de Decker, pour nos auditeurs.
Secrétaire perpétuel de l'Académie de langue et littérature française de Belgique, journaliste comme Jean Tordeur au soir. Ayant commencé d'ailleurs sa carrière de journaliste sous la houlette de Jean Tordeur, qui l'accueillit plus tard à l'Académie. Alors, nous nous trouvions donc là dans le jardin des Tordeur, et Nicole Hélin souhaitait depuis longtemps, et Jean Tordeur éditait les discours. À ce moment-là, Nicole Hélin a demandé à Jacques de Decker « Est-ce que Marie-Ange ne pourrait pas faire la préface ?» Et Jacques de Decker a dit « Mais pourquoi ne ferait-elle pas les notes ?» Moi qui suis du premier mouvement, j'ai dit, mais oui, avec plaisir. Je ne me suis pas mordu les doigts, mais j'ai beaucoup travaillé parce que suite à la qualité de ses discours, j'ai dû aller beaucoup plus loin que de simples notes factuelles.
Oui, d'ailleurs, une question que je me suis posée en lisant ce livre, c'est comment une femme qui a elle-même un talent d'écriture avéré consent-elle à se livrer à ce travail tout de même très lourd ?
Je ne sais pas. Là, je n'ai aucune réponse. Ma fille, vous entendrez, elle rirait aux éclats, je pense. Je suis quelqu'un qui fonce. Disons que dans ma passion est de partager. C'est comme ça que j'ai aimé être enseignante. Et qu'à partir du moment où je m'engage dans un projet, parfois peut-être un peu aveuglément, je vais au bout. Maintenant, vous êtes bien gentil de dire que j'ai un talent d'écriture. Je n'ai jamais écrit moi-même de fiction. Je n'ai jamais...
Ah non, mais pas, si j'en juge par votre avant-dire, comme oui. Vous avez un talent d'écriture.
Ben, je vous
vos
remercie.
Notes en témoignent également. Et je me suis dit, pourquoi s'égare-t-elle ? Enfin, s'égare-t-elle, non.
Non, mais peut-être que cela va me conduire à... Vous savez, quand on est enseignant, on n'a pas énormément de temps si l'on a des enfants
bien.
En plus. Et je crois aussi que j'ai beaucoup consacré de temps à la déclamation et que peut-être maintenant, effectivement, j'ai de grandes envies, moi-même, d'écrire.
Eh bien, si Canal Academy est le témoin de cette vocation tardive...
Et vous serez peut-être étonné de ce que j'écrirai, parce que ça n'ira pas dans le sens de notes, évidemment.
Non, mais ça, bon, chacun sa liberté.
Enfin, c'est un grand plaisir, ce que vous me dites.
Quel homme était Jean Tordeur ? L'homme, je parle de l'homme.
L'homme, Jean Tordeur, eh bien, j'y ai beaucoup réfléchi lorsqu'il est décédé, donc, il y a peu de temps.
Ben oui, il y a une actualité un peu funèbre dans notre...
C'est merveilleux aussi de pouvoir continuer. Parce que Jean Tordeur était quand même âgé de 90 ans. Voilà comment j'ai voulu le présenter lorsque j'ai, à la suite de la demande de Nicole Hélin, lu un texte lors de ses funérailles. J'ai choisi un texte d'Henri Beauchaud, qui est un des écrivains qu'elle a, que vous connaissez.
Oui.
Un texte qui s'appelle « La deuxième marche » et qui avait été dédié en son temps à Tordeur.
Oui, mais ce que je voudrais, c'est votre sentiment.
Ah, je me souviens de quelqu'un d'extrêmement fin, distingué, absolument charmant, d'une très, très grande culture.
Accueillant.
Et en même temps, exigeant par, comment dire, je n'aime pas ce mot exigeant, mais oui, un peu exigeant par la qualité de sa distinction morale. Exigeant comme on peut l'être vis-à-vis de ses amis. C'est-à-dire, il faut être juste, il faut écrire bien, il faut travailler pour la littérature. Et alors, disons que ce qui me frappait aussi, ma mère était journaliste, lui-même était journaliste. Ce que j'apprécie énormément, c'est ce regard sur l'actualité. En même temps, cette façon aussi d'encourager, de faire partie de la vie de la cité, de la vie littéraire de la cité. Et en même temps, d'avoir cette hauteur de vue qui permet d'envisager la littérature de façon générale. Et puis aussi un très très grand talent de poète. Il y avait chez cet homme une douceur et en même temps qu'une très grande ferveur qui s'est exprimée par sa poésie que l'on connaît moins. Il avait une très haute idée de son rôle. Si son livre s'appelle « Conservateur des charges », c'est qu'il estime que nous avons des charges à conserver, une culture à conserver. C'était un Européen convaincu. Et disons que la personne elle-même, la plus profonde, en fait, c'est en travaillant ses discours que j'y suis arrivée.
Vous avez des vers de lui en mémoire ou sous la main ?
J'ai des vers de lui ici. Voilà,
oui.
Je les ai pris avec moi et je pourrais...
Oui.
Vous souhaiteriez que je vous lise quelque chose ?
Oui, quelques-uns.
Je vais reprendre peut-être ceux que j'avais choisis,
oui.
Parce qu'ils marquent le trajet de son itinéraire poétique. Ainsi sans voir, ainsi voyant, chercheur d'espoir, batteur de vent, danseur de cordes, tes pieds légers détaillent l'ordre sans t'y ranger. Il y avait cette très grande indépendance et cette très grande légèreté. Ce sont des vers déjà tôt, ceux-ci. Je dirais juste après-guerre. Alors, ici, il parle de sa table d'écriture. Et voici ce qu'il en dit. Toujours le même cœur à dire, toujours la même table au bout. Je vous vois, vous êtes carré, vos quatre pieds vous portent bien. Que feriez-vous d'autre soutien ? D'être, vous êtes assuré, ô ma table, ô mon entretien, mangeuse du miel des journées où l'heure s'écoule pour rien. Et alors ceci, c'est lui, ça. Ici s'épuise le mensonge. Ici le cierge brûle droit. Quel feu veux-tu que je prolonge sur ce plane, juge de bois ? Ici, c'est ma plus ferme terre. Ici, j'ai tenté d'être pur. Nul ne peut fuir l'œil solitaire. Dieu seul sait habiter les murs. Vous voyez comme c'est beau.
Bon, il était croyant ?
J'avoue que je ne sais pas. Il était baptisé je crois qu'il a été très marqué par un séjour qu'il a fait dans l'école Saint-André, près de l'abbaye de Lepem, où il a eu vraiment un contact avec la littérature et en même temps avec le mysticisme. Je crois qu'il avait la foi et en même temps l'incertitude. Mais je ne dirais pas, je ne sais pas. J'avoue que je n'ose pas m'engager.
C'est une bonne réponse.
Je ne sais pas. Je serais bien incapable de répondre.
Il est mort très récemment.
Il est mort très récemment.
Il
était malade.
Une quinzaine de jours.
Oh, il est mort le 27 janvier. Donc c'est tout récent et il a été enterré le 30.
Tout récent. Alors, je vais vous taquiner.
Allez-y.
J'ai lu avec intérêt, évidemment, ce recueil de discours de réception, si je comprends bien.
Tout à fait.
À l'Académie royale de langue et de littérature française.
De Belgique.
De Belgique, bien sûr. Ce sont des exercices imposés.
Oui.
Ce sont forcément, et on ne peut en aucun cas le reprocher en quoi que ce soit à Jean Tordeur, ce sont des exercices rhétoriques.
Oui.
Est-ce que la rhétorique n'occulte pas un peu la pensée, le contenu ?
Je n'en ai pas eu l'impression, parce que ce qui est remarquable dans ces discours, c'est que aucun n'a exactement le même plan. Bien sûr, il y a à chaque fois les éléments biographiques, le point où en est l'œuvre, les souhaits, etc. Mais le ton, le style et le plan sont différents suivant les écrivains. Je crois qu'il avait une très grande adresse, et c'est pour ça que je l'admire beaucoup, c'est qu'il se coulait dans ce moule, mais il en jouait. Par exemple, il y a tout ce jeu qu'il y a autour de Monsieur. Monsieur, vous êtes mon ami, vous savez que je vous appellerai autrement que monsieur, disait-il.
Oui.
Et ça,
oui.
ça revient fréquemment. Mais c'est tellement vrai que, par exemple, j'ai eu beaucoup de peine à travailler le discours d'Henri Beauchaud, que j'ai trouvé compliqué. Mais pourquoi ?
Parce que
le personnage justement. Est compliqué. Je crois qu'il a vraiment, comme les grands écrivains classiques ont pu le faire, joué avec cette forme pour en faire une arme, me semble-t-il. Je ne sais pas si c'est votre avis, vous l'avez lu.
C'est un virtuose, incontestable.
C'est un virtuose.
C'est un virtuose, mais c'est justement ça qui me gêne, mais qui me pose question.
Peu. Cela m'intéresse.
Parce que le virtuose, quelque part, habille les choses, la pensée.
Oui.
C'est une question ouverte, il n'y a pas de préjugé dans ma tête.
Je ne l'ai pas senti. Par contre, j'ai été heureuse parfois de rencontrer une critique larvée. Je prends par exemple Alain Bosquet, qui n'est pas un écrivain de notre pays, mais qui a été reçu à titre étranger. Très clairement, me semble-t-il, en tout cas, Jean Tordeur a mis le doigt sur le côté critique parisien, dans le sens parisianiste, disons, du terme. C'était une critique. Il a toujours dit ce qu'il pensait, malgré tout, dans tous ses discours. Il est dans un contexte, on ne peut pas accepter la charge de secrétaire perpétuel et commencer à faire des gambades.
C'est clair, oui.
Mais je n'ai pas l'impression que ces discours soient empoulés.
Non, alors le côté positif, c'est qu'il perpétue un art du discours qui a longtemps été un des fleurons de la littérature de langue française et qu'il est vrai que c'est un orateur extrêmement habile, serait insuffisant, de très grande qualité, ça c'est évident.
Me semble-t-il.
Alors, une autre question que je me posais, justement à propos d'Henri Beauchaud. Il se trouve que Henri Beauchaud, vous le savez, d'ailleurs Jean Tordeur en parle dans son discours, a dirigé un temps en Suisse l'Institut Montesano. Et il se trouve qu'une de mes belles-filles, Catherine, pour ne pas la nommer, était élève de l'Institut Montesano. Alors j'ai rencontré Henri Beauchaud et j'ai, comme tout le monde, suivi de loin son parcours assez étonnant.
Étonnant.
À la fois écrivain, très bon écrivain, poète, fort bon poète, dramaturge, et puis qui donne dans la psychanalyse, et puis qui revient à la littérature, et qui publie à un âge avancé, enfin nous avons le même âge, je ne me plaindrai pas, qui publie un livre récemment qui fait l'admiration de la jungle littéraire.
Oui.
C'est un personnage à plusieurs facettes,
c'est vrai. Tout à fait.
Alors, je me suis demandé, en lisant précisément ce discours à Henri Beauchaud, s'il n'y avait pas, dans le discours de Jean Tordeur, des éléments pour initier. Autrement dit, est-ce que le public qui a écouté ça est au courant de tout ce qu'il a dit ? Parce que par rapport à Beauchaud, ne serait-ce que par pudeur élémentaire, il a dit les choses sans les dire tout en les disant.
Et vous trouvez que le discours n'est pas suffisamment clair à ce niveau-là ?
Peut-être.
Je vous dirais que j'ai eu beaucoup de mal. mais je crois que Jean Tordeur lui-même a eu certaines difficultés. Parce que, vu la complexité du personnage, et qu'il a essayé peut-être de rendre. Mais d'un autre côté, moi, j'ai trouvé ça passionnant. Alors, il y a des liens assez forts entre Henri Beauchaud et Jean Tordeur, en tout cas ces dernières années. Et il y a à Louvain, chez nous, Louvain-la-Neuve, comme on dit, le fond Henri Beauchaud, qui est dirigé de main de maître par Myriam Ouattet-Delmotte et à qui Henri Beauchaud a légué toutes ses archives. Je suis allée chercher là-dedans des manuscrits, des lettres manuscrites d'Henri Beauchaud à Jean. Justement. Donc, moi, ça m'a passionnée parce que ça m'a obligée à aller beaucoup plus loin dans Beauchaud et je me suis passionnée pour ses journaux, je me suis passionnée pour sa poésie. Et alors, ce que j'ai trouvé extraordinaire, justement, c'est cette faculté de passer du théâtre au roman, mais en recherchant toujours le même but et avec une sincérité et une humilité qui me touchent profondément. Voilà. Mais maintenant, j'ai trouvé ce discours compliqué à travailler.
Nous avons la même opinion.
Ce n'est pas une critique, c'est une réalité. Je ne me rends pas compte, j'étais trop plongée dedans.
Alors, parlez-nous donc de l'Académie royale de langue et de littérature française belge.
Oui.
Comment elle fonctionne par rapport à notre
à votre académie. Bien sûr, elle s'est souvent longtemps considérée comme la petite sœur, mais enfin, disons, il y a l'Académie royale de langue et de littérature française, auquel appartiennent les écrivains et les linguistes. C'est-à-dire qu'on peut y être grammairien, on peut y être auteur de lettres. Par exemple, on a André Gauss, qui est plutôt grammairien, comme Marc Wilmet. Et puis, nous avons des romanciers, des poètes, Pierre Mertens, par exemple, comme romancier, enfin, Philippe Jones comme poète. Et puis, il y a l'Académie royale de Belgique, qui, curieusement, contient la classe des lettres, mais qui s'occupe d'histoire. Et alors, sciences, médecine, tout ça se trouve dans un endroit absolument ravissant de Bruxelles. Vous n'avez pas à vous plaindre non plus, mais qui se trouve à côté du Palais royal. Vous avez le Parc royal de Bruxelles, vous avez le Palais du roi, le Sénat et le Parlement, et puis ce très joli palais qui appartenait en fait au prince d'Orange et était construit par l'impératrice Marie-Thérèse. Donc voilà.
Très bien.
C'est un lieu accueillant.
Oui. Est-ce que l'Académie royale a quelques liens avec l'Académie française ?
Je crois qu'elle en a par le biais d'abord. Je ne suis pas académicienne, donc je ne vais pas m'avancer trop.
Pourquoi n'êtes-vous pas académicienne ?
Tiens donc, quelle question ! Mais je pense qu'il y a de toute façon le lien, comme vous l'avez dit, de la langue. Je pense qu'il y a toujours eu des membres étrangers, chaque fois, entre guillemets, étrangers, belges qui étaient membres de l'Académie française et d'autres qui étaient membres de notre Académie. Je crois qu'on travaille pour le même combat, mais dans un contexte peut-être un petit peu différent. Mais enfin, je prends par exemple quelqu'un que j'admire énormément parmi ceux que Jean Tordeur a présentés, qui est Philippe Jones comme poète et Philippe Robert Jones comme historien de l'art, qui a été secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Belgique, chez nous, qui est membre de cette académie, l'Académie royale de langue et littérature française, et qui fait partie de votre académie. Et je crois qu'il y a des liens très évidents, et je suis très heureuse, disons, c'est un peu une des raisons pour lesquelles je suis contente de venir présenter ce livre ici, c'est parce que le discours est une chose que les académiciens français pratiquent merveilleusement, c'est de la littérature orale. Il y a ce côté, je ne sais pas si on poursuit actuellement à l'Académie française, mais je pense que oui, quand je vois le travail remarquable de Canal Academy, la volonté d'aller vers les gens.
C'est évident.
Et d'essayer justement qu'il n'y ait pas, et c'est ça
c'est
que j'ai poursuivi comme but.
C'est la raison d'être de Canal Academy,
mais je pense. Et là, je crois qu'avec des moyens peut-être différents, mais il y a une recherche, en tout cas du chef de Jacques de Decker, certainement.
Notre combat est le même.
Voilà, je pense.
Vous m'envoyez heureux. Alors, une dernière question, un peu piège. Est-ce que tous ces discours, à l'aune de la postérité, mérite d'être conservé?
Oui.
Oui,
oui.
Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Hein.
Mais de toute façon, non, je pense qu'il mérite d'être conservé. Parce que je pense que c'est un bout d'histoire littéraire et que c'est une façon d'y rentrer une porte qui est assez originale. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup, Marie-Ange.
Mais
bonne
chance.
Mais
c'est moi qui vous remercie, Jean, de m'avoir accueilli comme ça. Ça me fait grand plaisir.